Il est remarquable, Henri Van Lier, que nous n'ayons pas encore rencontré le théâtre dans les grands moments littéraires français que vous nous présentez.
Effectivement, quand on y songe, on se dit que, bon, l'engin, par exemple, d'Isolde, c'est un certain théâtre, puisque tout le monde est là, il y a le roi Artus avec tous ses chevaliers, ils ont fait des semaines de route pour venir écouter le fameux serment. Mais enfin, c'est trop large pour être théâtral. De même, la vue gothique, qui est celle qu'on peut voir à travers le roman de Perceval, ça demande plutôt sans doute un roman que le théâtre médiéval, si intéressant soit-il. Ou la fameuse diction de Villon. Et bien entendu, il est impossible de mettre sur un théâtre le grand carambolage de Rabelais, et moins encore l'escrime de Montaigne. Mais il se pourrait que maintenant, justement, au début du XVIIe siècle français, cette fameuse pensée qui se lacère le visage dans l'astrée d'Honoré d'Urfé, ou bien encore qui crée ces grands élans d'affirmation d'un moi pur chez Descartes, cette vitesse créée par Malherbe et ce survol pourrait peut-être bien permettre un moment théâtral. Et peut-être même un de ces tout grands moments comme il y en avait eu un à Athènes. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont ces temps où il y a des acteurs, bien sûr, mais où le peuple participe. C'est-à-dire qu'il compte les coups. Il sait exactement de quoi il est question. On peut même dire qu'il connaît l'histoire et qu'il sait quel est le dénouement de l'histoire. Et il peut donc, la foule, des milliers de personnes en Grèce, quelques centaines de personnes au début du XVIIe siècle, ils vont pouvoir là confronter, regarder de front leurs problèmes sur la scène, mais aussi entre eux. Et on peut dire qu'il y a un affrontement devant, mais il y a aussi des affrontements entre. Et donc les années 1630-1635 sont un moment tout à fait extraordinaire au point de vue européen d'ailleurs. 1637, c'est le premier opéra pour grand public à Venise. Avant ça, c'est la noblesse qui s'intéresse au théâtre. Et donc qui met sur le théâtre, sur la scène, de la mythologie. Et puis, pour toutes sortes de raisons, tout d'un coup, on va pouvoir élargir l'opéra. Les bourgeois vont venir. À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Entre autres, on coupe les subsides. Donc, il faut que les pièces deviennent intéressantes. Donc, il va falloir être génial. Et la mythologie va être remplacée par quelque chose qui est plus près, qu'on peut saisir, avec quoi on peut travailler, et qui est l'histoire. L'histoire en particulier, l'histoire ancienne. Et le théâtre français, par exemple, va s'organiser autour de la connaissance historique des Romains qui va permettre au public de dégager les idées, de savoir, puisqu'on connaît tous les personnages, on sait généralement ce qui va se passer, va permettre de voir quels sont exactement les enjeux. Mais alors, pour nous transporter immédiatement au cœur de la création de ces années 30-40 en France, lisons probablement les vers qui en sont les plus décisifs, et c'est ceci. C'est Chimène qui parle. De quoi, quand ta faveur, notre amour m'entretienne, ma générosité doit répondre à la tienne. Tu t'es, en m'offensant, montré digne de mouer, je me douais par ta mort montré digne de fouer. C'est probablement suffisant, avec ces quatre vers, il y a moyen sans doute de reconstituer à peu près tout l'essentiel du climat. Il y aurait moyen d'ailleurs de retrouver beaucoup de choses qui sont caractéristiques de la philosophie cartésienne, de la situation de la pensée chez Bérulle, etc. En tout cas, nous sommes au cœur de ce théâtre. Et qu'est-ce qu'il est ? Il est ce qu'un linguiste contemporain, un jeu sur les embrayeurs. Il y a en effet dans le langage des mots très bizarres, qui sont le mot « je », le mot « tu », le mot « il », « monton son », « matassa », etc. Et ces mots ont une caractéristique bizarre, c'est qu'ils sont vides. « Tu », ça peut s'appliquer à la personne qui est là, « tu », ça peut s'appliquer aussi à moi, à certains moments, ou encore à une troisième personne. Et c'est pourquoi tout le monde a fait remarquer que ces mots sont quand même assez difficiles à employer, par exemple pour l'enfant qui commence à parler. Mais, justement, nous sommes ici, dans l'instant le plus difficile, Descartes nous y a fait assister, de la pensée française. À ce moment où le corps, tout ce qui pourrait être encore la source des sensations, va être mis en question dans le doute méthodique cartésien. Et qu'est-ce qui va rester là ? La pure pensée de la pensée, la pensée comme origine en même temps que comme vision. Et qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là ? Même au fond, Descartes l'avait dit. Il dit, il y a moi. Le danger de moi, c'est que justement, moi est un complément d'objet direct. Moi est encore quelque chose. Et par là, les philosophies du moi, ainsi comprises, vont être propres à la langue française. Il n'y a pas de philosophie possible du moi en grec. Il n'y aura pas de philosophie du moi comme telle en allemand. Ce sera chez Fichte, hein, ich bin ich, je suis je. Ou même encore chez Freud, ce sera un ich ou un über ich. Ici, nous avons affaire à un moi, mais quand même, en même temps, cette philosophie du moi qui est corporelle chez Montaigne, une substance matérielle chez Montaigne, et qui est une substance purement spirituelle chez Descartes, va permettre ce jeu du « je », du « tu », qui sont beaucoup plus vides encore, peut-être d'une certaine manière, encore beaucoup plus spirituels au sens fort du terme, que le « moi » cartésien, et qui ne sont pas directement substantifiés. De quoi est quand ta faveur notre amour m'entretienne ? Ma ! De quoi est ta faveur m'entretienne ? Ma générosité tienne ! Tu t'es ! Moué, je me douais par ta mort, etc. Il y a, je pense, 8 ou 9 ou 10, je sais pas combien, de ces embrayeurs, de ces shifters, dans la phrase en question. Et pour finir, le théâtre est appelé par cette situation. Comment réaliser un embrayeur ? Je n'ose pas dire comment lui donner du contenu, puisqu'il n'a pas de contenu. Mais comment faire en sorte qu'il existe au plein sens du terme ? Eh bien, on pourrait presque dire que le théâtre de Corneille est un parcours des possibilités à l'égard de ce problème que nous venons d'essayer de poser. La première forme, ce sera celle de la comédie. Il est jeune à ce moment-là. Il voit le paradoxe, il voit la bizarrerie du moi sur lequel rien ne peut avoir de prise. Et on connaît ces scènes de la place royale, première comédie où on sent d'ailleurs un homme très jeune, te rencontrer dans la place royale solitaire et si près de ta douce maison, montre bien que Phyllis n'est pas à la maison, dit Alida. À quoi Cléante répond, mais voir de ce côté ta démarche avancée montre bien qu'Angélique est fort dans ta pensée. Alors, tout va bien, mais... Alors, Alidor répond de manière surprenante. Et c'est ça ce qui intéresse Corneille. La grande passion, la passion fondamentale, dit Descartes, c'est l'étonnement. Là, bien sûr, il est très classique, il connaît bien certainement la première phrase d'Aristote disant que la connaissance commence par le tomansein. L'étonnement est au 17e l'excès d'admiration. Donc, c'est le mirari. Ce qui fait que je sursaute devant quelque chose que je n'attendais pas. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs ici. Au moment où on lui dit « Montre bien qu'Angélique est fort dans ta pensée », on se dit « Mais voilà, c'est très bien, les jeunes gens sont heureux, ils sont amoureux. » Et Alidor répond « Hélas, c'est mon malheur. » Et quoi ? Elle t'aime pas ? Non, pas du tout. Son objet trop charmant, quoi que je puisse faire, y règne absolument. Et alors il va développer ce paradoxe. Première solution du rapport entre les embrayeurs de « je, tu, il, mon, ton, son » chez Corneille, c'est ce paradoxe où on dit, mais vous savez, la situation est telle, que pourrait être je, que pourrait être moi? Eh bien, la première chose à faire, c'est de ne pas aimer et de ne pas être aimé. Puisque être aimé ou être aimé, c'est évidemment dépendre de quelqu'un d'autre, et il va se mettre à développer ça en disant, comptes-tu mon esprit entre les ordinaires, penses-tu qu'il s'arrête aux sentiments vulgaires, les règles que je suis ont un air tout divers, je veux la liberté dans le milieu des fers. Je voudrais noter ici, parce que je crois que c'est extrêmement intéressant, comment le XVIIe siècle va être, nous l'avons vu chez Malherbe, un moment de retrait, de rétraction, et va donc favoriser le son « est ». Vous en avez une série ici, je vous lis les finales de 6 des vers, « Les ordinaires, vu le guerre, tout divers, milieu des fers, qui vous possède et qui ne nous cède ». C'est bien le « n'espérons plus mon âme aux promesses du monde ». Donc il y a une rétraction, hein, qu'on a retrouvée à d'autres moments dans le français, au moment où on transformait tous les madames en médem, par exemple, à Paris. Première solution, donc ce paradoxe, et puis une toute autre solution beaucoup plus cornélienne, et qui a donné d'autres vers, on pouvait hésiter pour reprendre le passage le plus représentatif du moment, c'est dans Médée. Médée, la servante de Médée lui dit, mais il reste plus rien quoi, il vous reste plus rien, il y a votre mari qui vous lâche, et d'autre part vous avez perdu votre fortune, votre pays, vous est, votre époux est sans foi, dans un si grand revers, que vous reste-t-il? Médée répond, moi donc. Moi, dis-je. Elle reprend. Et c'est assez. Alors on pourrait dire, tiens, ça y est, nous sommes au mois de Descartes ici. Eh bien, pas tout à fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est un auteur jeune. Nous ne sommes pas encore au site. Hein. Il y a eu la Place Royale, et c'est la première, Médée est la première tragédie de Corneille. C'est d'ailleurs assez bizarre. C'est pas bizarre, mais c'est extrêmement suggestif. C'est qu'il prend pour première tragédie une tragédie particulièrement épouvantable où une mère va sacrifier ses deux enfants et refera le coup dans Rodogune. Une mère sacrifiant ses deux enfants. C'est-à-dire qu'il aime vraiment les situations les plus tendues. Et effectivement, au moment où elle dit « moi dis-je, c'est assez », ce « moi » est encore à ce moment-là très trouble. En effet, Mérine lui dit « Quoi, vous seule, madame ?» Et elle répond « Oui ». Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va être à la manière de Descartes, ou surtout, disons, de l'Astrée, dire « Écoute, ne regarde pas mon corps, etc., c'est mon esprit, et moi, c'est mon esprit pur ?» Pas du tout, elle va dire « Oui, tu vois, en moi seul. » Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Et le fer, et la flamme, et la terre, et la mer, et l'enfer, et les cieux, et les sceptres des rois, et la foudre des dieux. C'est-à-dire que il n'est pas tout à fait lui-même. Il dépend de ses sources. Et en effet, il dépend de Sénèque. Sénèque, dont il s'inspire, qui a écrit une Médée, après Euripide, va répondre quoi au moment où il dit « Qu'est-ce que vous reste ?»« Nil quae superest opibus et tantis tibi » De tout ce que tu as eu de richesse, il ne te reste plus rien. « Nil quae superest » Rien ne demeure en si superest. Et Médée répond chez Sénèque, Médéa superest. Il reste quelque chose. C'est Médéa superest. Mais Médéa, ce n'est pas moi. C'est pas moi, c'est Médéa. Et qu'est-ce que c'est que Médéa? Il n'y a pas de moi encore à ce moment-là. Eh bien, Médéa, c'est, il le dit très très bien, c'est la mer, mare, c'est la terre. Hic mare et terras vides. Tu vois ici, quand tu me vois, moi, Médée, pas moi, excusez-moi, j'ai ajouté moi. Non, quand tu vois Médée, tu vois quoi? Tu vois la mer et les terres. Ferumque, tu vois le fer. le feu, Ignès, et Déos, le dieu. Alors, tous les dieux terribles, évidemment, de la Grèce et de Rome, et fulmina, et la foudre, et c'est ce qu'il a d'ailleurs repris, paraphrasé, donc, et le fer, et la flamme, et la terre, et la mer, et l'enfer, et les cieux, et le sceptre des rois, et la foudre des dieux. Ce moment devait intéresser fortement le public. Pour toutes sortes de raisons. D'abord, il y a Loudun. Nous sommes en pleine démonologie française. Il y a des démons partout. Ça crache du feu, ça crache des flammes de tous les côtés. Et quand Médée commence en disant « Tu t'abuses, Jason, je suis encore moi-même. Tout ce qu'en ta faveur fit mon amour extrême, etc. » Elle continue. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est le « Qu'un forfait nous sépare ainsi qu'il nous a joint. Que mon sanglant divorce en meurtre, en carnage s'égale au premier jour de notre mariage, etc. » Il n'a pas encore toute la force de son langage, visiblement. Mais il a déjà cette espèce de fureur dans l'imagination. Et il n'y a pas Corneille qui l'a. Depuis un bon moment, déjà, il y avait toute la littérature protestante. Il y avait déjà Agrippa d'Aubigné qui disait « La terre ouvre son sein, du ventre des tombeaux naissent les enterrés, les visages nouveaux. » Donc, c'est cette idée extraordinaire de dépeindre la résurrection des morts. Alors, d'où vont sortir les morts? Ils vont sortir, là, dans les prés, du bois, du champ. Presque de toute place sortent les corps nouveaux et les nouvelles faces. Ici, les fondements des châteaux rehaussés par les ressuscitants, donc ceux qui sont en train de ressusciter, là, par les ressuscitants promptement sont percés. Oh, ici, un arbre sent des bras de sa racine grouiller un chef vivant. Donc, à travers les racines de l'arbre, il y a une tête qui est en train de sortir une poitrine. Là, l'eau trouble, bouillonne, et puis... Donc, on voit comment il y a une continuité extraordinaire dans ce dictionnaire. Et nous nous mettons toujours du point de vue du public. C'est ça qui nous intéresse. C'est le seul point de vue correct pour la lecture historique, proprement historique, d'une pièce de Corneille. Évidemment, si c'est pour notre divertissement, on peut lire n'importe quoi et dire, moi, ça m'amuse, ça me rappelle, je ne sais pas quoi. Mais si on veut rentrer dans la perspective historique, à partir de ce moment, il faut se dire... Qu'est-ce que les gens pouvaient entendre, comme nous avons essayé de faire à propos d'Iselde, au moment où elle fait tous ses serments, qu'est-ce que les gens peuvent entendre? Alors, ce qu'ils entendent, c'est entre autres ça. C'est-à-dire que, bon, ils entendent moi, sans doute, très très fort, ça. Hein? C'est cette espèce de solipsisme qui est tourné un peu en ridicule chez Alidor, bien sûr. Il va, tout d'un coup, le moi se dégage. Il serait amusant de continuer à faire l'histoire de l'escrime que nous avions commencé chez Montaigne. C'est la mise en place de la rapière. La rapière va se suffire, elle va être un instrument complet, elle ne va plus être ce qu'était l'épée. Donc, l'individu cartésien et autres va se suffire, mais en même temps, tout ça se fait avec des torrents qui passent en dessous. Et c'est ce qui fait la force du XVIIe siècle, sinon tout ça aurait été d'une froideur qui, bien entendu, n'aurait jamais créé en tout cas un théâtre. Donc, deuxième moment, après Alidor, le moment de Médée. Troisième moment, cette chose que nous avons citée tout à l'heure, de quoi, quand ta faveur, notre amour m'entraînait. Voilà que Chimène, c'est Chimène qui donne le mouvement. Ça arrive souvent, nous avons vu que c'était Isolde qui donnait le grand mouvement dans Tristan et Iseult. Ici, en tout cas, dans cette tragédie, c'est elle qui prend l'initiative de dire, de quoi, quand ta faveur, notre amour m'entraînait, ma générosité doit répondre à la tienne, puisque, alors maintenant l'argument, tu t'es, en m'offensant, montré digne de moi, je me douais, par ta mort, montré digne de toi. C'est-à-dire que, c'est elle qui propose que les shifters, les embrayeurs, le je, tu, il, nous, vous, il, etc., se mettent dans une telle relation l'un par rapport à l'autre, par cette espèce de mort réciproque, en tout cas dans la menace de mort, sinon dans son effectuation, que tout d'un coup le « je » prenne toute son intensité, pas sa substance justement, ça serait du Descartes, mais qu'il prenne toute son intensité dans un affrontement devant un « tu » qui se trouve réciproquement dans la même intensité par rapport à lui. Donc, ces shifters, ces embrayeurs qui ne sont rien, qui sont vides, tout d'un coup, je n'ose pas dire qu'ils vont se remplir, mais ils vont atteindre leur statut d'existence dans cette espèce d'élan de l'un vers l'autre. Et Rodrigue, bon, rentre dans le jeu, ne diffère donc plus. Alors ça, c'est très XVIIe siècle, toujours. Tout doit être instantané. Tout doit se faire chaque fois dans un instant qui t'est allé. Ne diffère non plus ce que l'honneur t'ordonne. Il demande ma tête et je te l'abandonne. Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt. Alors il y a là ce paradoxe très curieux. Il y a cette vitesse de Corneille, cette naïveté des jeux des chiffres, et en même temps la procédure. Et il n'y a d'ailleurs que par cette espèce de procédure aussi que les chiffres peuvent véritablement exister. Le coup m'en sera doux aussi bien clairé. Attendre après mon crime une lente justice, c'est reculer ta gloire autant que mon supplice. Je mourrai trop heureux mourant d'un coup si beau. Les chants Amébée ici, hein, donc ces chants dans lesquels on se répond, les chants Amébée virgiliens auxquels nous assistons ici, sont tellement de réciprocité d'ailleurs que quelques vers plus loin, Rodrigue va reprendre exactement les vers de Chimène en les renversant simplement de coué. Qu'en ma faveur, notre amour t'entretienne. Ta générosité de répondre à la mienne, et pour venger un père, emprunter d'autres bras, etc. D'ailleurs, nous avons vu toute une série de conséquences. Ne diffère donc plus, il demande ma tête, je te l'abandonne, faisons un sacrifice, etc. Tantôt, la cause précède l'effet, de manière naturelle. Il demande ma tête, je te l'abandonne. Plus souvent, l'effet précède la cause. L'ultérieur précède l'antérieur. Ne diffère donc plus ce que l'honneur t'ordonne. Fais-en un sacrifice à ce noble intérêt. C'est reculer ta gloire, autant que mon supplice. C'est chaque fois l'ultérieur précède l'antérieur. Je mourrai trop heureux, mourant d'un coup si beau. Le coup m'en sera doux, aussi bien clairé. Ces inversions sont sans doute un autre moyen de se précipiter au but, comme aussi de provoquer la sensation de tremplin, de déclenchement, qui est bien cet excès d'admiration qu'est le véritable étonnement, nous explique Descartes, au XVIIe siècle. Alors, tout ça peut encore aboutir à de nouvelles sauvageries, comme dans Camille, où d'ailleurs la vitesse du XVIIe siècle rame l'unique objet de mon ressentiment. Rome à qui vient ton bras, immolé mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur alors. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Donc, tout est fait pour que le vers puisse être dit d'un seul coup. Et que normalement, il est d'ailleurs pratiquement un sens complet. Mais tout ça aboutit. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre sur Rome, voir ses maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause, et mourir de plaisir. Donc, ça ne quitte, ce démon-là ne quitte jamais Corneille, et c'est évidemment ce qui fait sa force. Et Rodogune, où nous retrouvons Cléopâtre, une mère qui sacrifie ses deux enfants, c'est sa pièce préférée, nous explique-t-il, et elle est dédiée, on peut deviner, à Condé, le terrible aigle du XVIIe siècle. Un des hommes qui a été, comme on dit, Corneille a été surpris par deux hommes, par Richelieu et par Condé. La gloire est une espèce de joie qui vient d'une espérance, celle d'être loué par quelques autres. La louange n'ayant ici qu'un but vraiment ontologique, qui est de maintenir dans l'être cette chose qui n'a pas d'être et qui est les embrayeurs. Et ça peut prendre alors cette forme d'une plénitude infini dans une sorte d'arrêt, au moment où Pauline dit à Polyeucte, « Quel Dieu !» Polyeucte va dire, « Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort ?» dit Polyeucte, « Quel Dieu !» Et puis la réponse, « Fantastiquement étarde, qui est la dernière manifestation de ce langage possible. Tout beau, Pauline. Il entend vos paroles. Et ce n'est pas un dieu, comme vos dieux frivoles, insensibles et sourds, impuissants, mutilés, de bois, de marbre ou d'or, comme vous les voulez. c'est le Dieu des chrétiens. C'est le mien. C'est le vôtre. Et la terre et le ciel n'en connaissent point d'autre. C'est qu'ils peuvent n'est rien. Ils sont comme nous sommes, véritablement hommes, et meurent comme nous. C'est la même structure que chez Malherbe, mais où Malherbe arrête le mouvement, lui donne encore certaines compacités, Corneille l'ouvre. Et en effet, par exemple là, « Ils sont comme nous sommes » devient dans le site « Ils sont ce que nous sommes ». Nous sommes passés au moment proprement cartésien. De même dans, et là c'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qu'il faut aimer. Et la terre et le ciel, un, deux, trois, n'en connaissent point d'autre. Il y a une circulation incroyablement silencieuse, et c'est ce qui permet de comprendre que Corneille va, plusieurs fois dans son existence, se livrer à des travaux dits spirituels, c'est-à-dire à traduire l'imitation de Jésus-Christ, à faire un office de la Vierge, qui sont d'une longueur extrême, et où il cherche d'ailleurs à obtenir ce même langage étal. Et comme on le dit très bien maintenant, ce ne sont pas des passages de l'activité théâtrale à des moments de spiritualité, les deux se compénètrent exactement comme le demandait Bérulle. Et pour arriver à écrire les vers ou les shifters ont cette violence d'affrontement qu'ils ont dans le site, il faut sans doute le recueillement extraordinaire. Je cherche en altérer la fontaine de vie. Je cherche en affamer le pain vivifiant. Et c'est sur cet espoir que mon âme ravie au monarque du ciel présente un mendiant. Et il y a des dizaines de milliers de vers comme ça. Exactement du même niveau. Et aussi d'ailleurs transparent. On ne saurait assez voir à quel point, dans ce moment du XVIIe siècle, c'est-à-dire grosso modo entre 1600 et 1660, tous les mouvements, que ce soit des mouvements politiques, la politique de Richelieu, que ce soit la conception du théâtre, que ce soit le poème, tout est directement lié, au sens de Bérulle, à la spiritualité. C'est ce que Bérulle appelait l'adhérence. C'est un mot difficile à comprendre, mais qui est une véritable clé, c'est la manière dont, en fin de compte, tous les actes extérieurs adhèrent littéralement dans toute leur extension à une intériorité, de même que cette intériorité adhère dans l'autre sens à toute action extérieure, et c'est cette intrication, mais adhérence est évidemment mieux parce que c'est le mot de l'époque que nous allons retrouver chez Pascal.